Les marchands avaient tiré leurs chariots vers un des bords de la prairie, sous un bosquet de bouleaux et de frênes. Debout sous les arbres, Dunn contemplait impuissant l'emplacement vide où s'était tenu celui des saltimbanques. Parti. C'est ce qu'il avait craint. Si je n'étais pas aussi balourd, j'aurais fui depuis longtemps, moi aussi. Mais voilà qu'il se retrouvait sans bouclier. Comment allait-il se battre sans bouclier? Certes, il lui restait de l'argent. Encore fallait-il qu'il en déniche un à acheter. « Sir Duncan !» appela une voix dans l'obscurité. Dunn pivota pour découvrir Crâne d'Acier debout derrière lui, une lanterne de fer à la main. Sous son court manteau de cuir, l'armurier était nu au-dessus de la taille. Son torse puissant et ses bras épais étaient couverts de poils noirs.
« Si vous êtes venu chercher votre bouclier, elle me l'a laissé. »
Il détailla Dunk de pied en cap.
« Vous avez tous vos abattis. Ce sera donc un combat, hein ?»«
Le jugement des sept. Comment le savez-vous »«
M'aurait étonné qu'il vous embrasse et vous donne un titre pour votre comportement chevaleresque. » Et comme il ne vous manque ni bras ni jambes, hein? Allez, suivez-moi. »
Son chariot était facilement repérable avec l'épée et l'enclume peintes sur ses flancs. Dunk suivit l'artisan à l'intérieur. L'armurier pendit la lanterne à un crochet, enleva son manteau humide et enfila une tunique de toile grossière. Un panneau suspendu tomba de l'une des parois pour se transformer en table.
« Tenez !»
dit-il en poussant un tabouret vers lui. Dunk s'assit. Où est-elle partie ?«
S'en sont retournés à Dorne. L'oncle de la fille a de la gigotte. Plus loin on est, plus vite on est oublié. Et rester, c'était s'exposer au regard mortel du dragon. Puis, il s'est dit qu'il valait mieux qu'elle vous voie pas mourir. »
L'homme se dirigea vers le fond du chariot, où il fouilla un moment dans l'ombre, avant de revenir avec le bouclier.
Le rebord était en vieil acier pire que de la merde, rouillé et cassant, dit-il. J'y en ai posé un autre, deux fois plus épais, et j'y ai rajouté des plaques par derrière. Il sera plus lourd, mais plus solide. La fille a fait la peinture.
Son travail dépassait tout ce qu'il aurait pu espérer. Même à la lueur de la lanterne, les couleurs du coucher de soleil déployaient leur somptueux chatoiement. L'arbre, grand, fort et noble, éclatait de vérité. L'étoile filante faisait comme une griffe brillante sur le ciel en bois de chêne. Malgré la qualité du dessin, quelque chose chiffonnait Dunk. Il dut regarder plusieurs minutes avant de découvrir de quoi il s'agissait. L'étoile tombait. Quelle sorte de blason était-ce là? Tomberait-il aussi vite? Et le coucher de soleil annonçait la nuit? « J'aurais dû garder le calice », s'exclama-t-il soudain déprimé. Au moins, il avait des ailes pour s'envoler. Et Sir Harlan disait toujours que la coupe était pleine de loyauté, d'amitié, autant que de bonnes choses à boire. Ce nouveau blason, on dirait un présage de mort.
« L'orme est vivant !» fit observer Crâne d'Acier. « Regardez comme les feuilles sont vertes. Des feuilles d'été, pour sûr. J'ai vu des boucliers avec des crânes, des loups, des corbeaux, et même des pendus, ou des têtes ensanglantées dessus. Ça les empêchait pas de protéger ceux qui les portaient, comme le fera celui-ci. « Vous vous souvenez du dicton « Chêne et fer, gardez-moi fort »
ou bien « suis mort, bon pour l'enfer » acheva Dunk. Il n'avait pas pensé à ce dicton depuis des années. L'ancien le lui avait appris bien longtemps auparavant. « Combien voulez-vous pour le nouveau rebord et le reste ? » demanda-t-il à Crâne d'Acier.
« De vous ?»
L'artisan se gratta la tête.
Une pièce de bronze.
La pluie avait cessé quand les premières taches de lumière caressèrent le ciel d'Orient. mais elle avait accompli son œuvre. Le terrain du tournoi, que les hommes de Lord Sandreguet avaient débarrassé de ses lys, n'était plus qu'une immense fondrière de boue et d'herbes détrempées. Des filaments de brume s'accrochaient au sol comme de pâles serpents blafards, tandis que Dunk se dirigeait vers le pré des Challengers, accompagné de crânes d'acier. La tribune d'honneur commençait déjà à se remplir, seigneurs et dames se serrant dans leurs manteaux pour se protéger de la froidure matinale. Le petit peuple n'était pas en reste, et déjà des centaines de spectateurs se pressaient contre la barrière d'enceinte. « Ils sont bien nombreux à venir me voir mourir », se dit amèrement Dunk, mais il se trompait lourdement sur le compte de ces gens. Quelques pas plus loin, une voix de femme lui parvint.
« Bien de la chance à toi !»
Un vieil homme sortit de la foule et lui tendit la main.
« Que les dieux vous donnent la force, sœur !»
Puis un mendiant en haillons prononça une bénédiction sur son épée et une jeune fille lui embrassa la joue.
« Ils sont avec moi ?»«
Mais pourquoi » demanda-t-il à l'armurier.
« Que suis-je pour eux ?»« Un chevalier qui s'est souvenu de ses vœux. »
Raymond les attendait à l'extrémité sud du terrain, tenant par la bride le cheval de son cousin et celui de Dunk. Tonnerre renâclait sans cesse sous le poids des œillères et du lourd manteau de maille dont il n'avait pas l'habitude. Crâne d'acier inspecta l'armure et déclara qu'elle était de bonne facture, même si elle n'avait pas été forgée par ses soins. D'où qu'elle vienne, Dunk était soulagé. Puis il vit les autres. Le borgne à la barbe poivre et sel, le jeune chevalier aux rayures jaunes et noires avec la ruche sur son bouclier. Robin Riesling et Humphrey des Essaims, se dit-il avec stupéfaction. Et Sir Humphrey Harding aussi. Harding était monté sur le destrier rouant d'aérien, à présent bardé de ses losanges rouges et blancs. Il vint à leur rencontre.
« Sœur, j'ai une dette envers vous. »
« C'est Aérion qui a une dette, » répliqua Humphrey Harding, « et nous avons bien l'intention de la lui faire payer. »«
On a dit que vous aviez la jambe brisée. »«
C'est exact, » dit Harding, « je ne peux pas marcher, mais tant que je reste en selle, je suis capable de me battre. »
Raymond entraîna Dunk à l'écart.
J'espérais que Harding voudrait régler quelques comptes avec Aérion et il a sauté sur l'occasion. Il se trouve que l'autre homme frais est son frère par alliance. L'œuf a ramené Sir Robin, qu'il a connu lors d'autres tournois. Vous êtes donc cinq.
Six, corrigea Dunk, abasourdi en tendant la main.
Un chevalier pénétrait dans le pré, un écuyer tenant son destrier derrière lui.
Orage moqueur.
D'une tête de plus que Raymond, presque aussi grand que Dunk, Sir Lionel portait un manteau d'or frappé du cerf couronné de la maison Baratheon, ainsi que son casque au bois spectaculaire sous le bras. Dunk lui offrit sa main.
« Sir Lionel, je ne pourrai jamais assez vous remercier d'être venu, ni Messire Stephen, pour vous avoir appelé. »
Sir Lionel lui lança un regard perplexe.
« Sir Stephen, c'est votre écuyer qui est venu me trouver. Le garçon, Aegon. Mon propre écuyer a essayé de le chasser, mais le gamin lui a glissé entre les pattes et m'a renversé un carafon de vin sur la tête. » Il rit. « Il n'y a pas eu de jugement des sept depuis une bonne centaine d'années, le saviez-vous ? Je n'allais pas rater l'occasion de combattre les chevaliers de la garde royale et de tordre le nez au prince Maïkar du même coup. »
« Six !» dit Dunk à Raymond avec espoir, tandis que Sir Lionel rejoignait les autres. « Votre cousin amènera sûrement le dernier. »
Un frémissement parcourut la foule. Au nord de la prairie, une colonne de cavaliers franchissait le gué. Les trois chevaliers de la garde royale chevauchaient en tête, tels des fantômes dans leur armure d'émail blanc, leurs longs manteaux blancs flottant derrière eux. Même leurs boucliers étaient blancs et vierges de tout blason, tels des champs de neige nouvelles. Derrière eux venaient le prince Maïkar et ses fils. Aérion était monté sur un cheval gris pommelé, des flammes orange et rouge jaillissant du caparaçon de la bête. Le destrier de son frère était un bai plus petit, couvert d'une cotte aux écailles noires et dorées. Une plume de soie verte ornait le casque de Daéron. Mais celui qui présentait l'aspect le plus redoutable était bien leur père. Des dents noires de dragon griffaient son dos, ses épaules et la crête de son casque. L'énorme masse d'armes aux clous formidables qui pendait de sa selle était l'arme la plus effroyable que Dunk eût jamais vue.
« 6 !» s'exclama Raymond. « Ils ne sont que 6 !»«
C'était vrai !» constata Dunk. « 3 chevaliers noirs et 3 blancs. Mais il leur manque un homme à eux aussi. Était-il possible qu'Aérion n'ait pas été capable de trouver un 7e homme ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Combattrait-il à 6 contre 6 ?» L'œuf se glissa auprès de lui tandis qu'il essayait de deviner ce qui allait se passer.
« Sœur, il est temps de revêtir votre armure. »«
Merci, écuyer, si tu veux bien m'aider. » Crâne d'acier leur donna un coup de main. Aubert et Gorgerin, Côte de Maille et Plastron, ils le transformèrent en homme d'acier, vérifiant chaque boucle, chaque attache, et plutôt deux fois qu'une. Sœur Lionel était assis, aiguisant son épée sur une pierre, tandis que les deux hommes frais bavardaient tranquillement. Sœur Robin priait, et Raymond Fossovoy faisait les 100 pas, se demandant où était passé son cousin. Dunk était en armure quand Sœur Stéphane se présenta enfin.
« Oh, Raymond » appela-t-il. « Mon armure, je t'apprie. »
Il s'était changé et portait un pourpoint doublé qu'il garderait sous l'armure.
« Sœur Stéphane, » dit Dunk, « où sont vos amis ? Nous ne sommes que 6 pour l'instant, il nous faut encore un chevalier.
Ah, « Je crains qu'il ne vous en faille 2 », déclara Stéphane.
Raymond lassait le dos de son haubert. Dunk ne comprenait pas.
« 2, sœur ?»
Stéphane ramassa un gantelet de fines écailles d'acier qu'il enfila à sa main gauche, fléchissant les doigts pour s'assurer de sa flexibilité.
« Je ne vois que 5 chevaliers ici, » dit-il tandis que Raymond nouait la ceinture de son épée. « Des essaims, Riesling, Harding, Baratheon et vous-même.
»« Et vous ?» dit Dunk. « Vous êtes le 6e. »«
Je suis le 7e, » le reprit Sir Stephen avec un sourire. « Mais pour l'autre camp, je combats pour le prince Aérion. » Et les accusateurs.
Raymond, qui allait lui tendre son casque, se figea comme pétrifié.
Non.
Si.
Stéphane haussa les épaules.
Sir Duncan comprendra, j'en suis sûr. Mon devoir m'appelle aux côtés de mon prince.
Et tu lui as dit de compter sur toi?
Raymond était devenu très pâle. Son cousin lui prit le casque des mains.
Vraiment? Nul doute que je devais être sincère à ce moment-là. Apporte-moi mon cheval.
Ben, va le chercher toi-même, rétorqua Raymond. Si tu crois que je vais continuer à t'aider après cela, tu es aussi stupide que vil.
Vil? Surveille ton langage, Raymond. Nous sommes 2 pommes du même arbre, et tu es mon écuyer. Ou bien aurais-tu oublié tes vœux?
Non, c'est toi qui as oublié les tiens. Tu as fait le serment d'être un chevalier.
Je serai plus qu'un simple chevalier avant que ce jour ne s'achève. Lord Fossovoy. Voilà un titre qui fait plaisir à entendre.
Toujours souriant, il enfila son 2e gantelet, tourna les talons et traversa le pré jusqu'à son destrier. Tous le contemplaient avec mépris, mais aucun ne fit le moindre geste pour l'arrêter. Dunk suivit Stéphane des yeux tandis qu'il traversait le terrain sur sa monture. Ses poings étaient serrés autant que sa gorge, et il était incapable de prononcer le moindre mot. De toute manière, rien de ce que j'aurais pu dire ne l'aurait fait changer d'avis, se dit-il.
Faites-moi chevalier.
Le saisissant par l'épaule, Raymond força Dunk à se retourner.
Je prendrai la place de mon cousin, Sir Duncan. Faites-moi chevalier.
Il posa un genou en terre. Complètement perdu, Dunk saisit la garde de son épée, puis hésita.
Raymond, je ne devrais pas. Il le faut. Sans moi, vous n'êtes que cinq.
Ce garçon n'a pas tort, dit Lionel Baratheon. Faites-le, Sir Duncan. Tout chevalier peut armer un autre chevalier.
Doutez-vous de mon courage ? Demanda Raymond.
Non, fit Dunk. Ce n'est pas cela, mais... Il hésitait encore.
Une fanfare de trompette déchira la quiétude matinale.
L'œuf revint vers eux en courant.
« Sœur, Lord Sandrugué vous appelle. »
Orage Moqueur fit un geste impatient de la tête.
« Allez-y, Sir Duncan, je vais faire prononcer ses vœux à Raymond. »
Il tira son épée et écarta Dunk d'une bourrade.
« Raymond de Fosse-aux-Bois, »
commença-t-il solennellement en posant la lame sur l'épaule droite de l'écuyer.
« Au nom du dieu guerrier, je te demande d'être brave. »
L'épée passa sur l'épaule gauche.
« Au nom du dieu père, je te demande d'être juste. »
Retour sur la droite.
« Au nom de la déesse mère, je te charge de défendre le faible et l'innocent. »
La gauche.
« Au nom de la déesse Jouvencelle, je te charge de protéger toute femme. »
Dunk les quitta là, en proie à un sentiment partagé où le soulagement le disputait à la culpabilité. « Il nous en manque encore un, » pensa-t-il, tandis que l'œuf lui amenait tonnerre. « Où vais-je le trouver ?» Il monta en selle et se dirigea lentement vers la tribune d'honneur, où Lord Sandrugué l'attendait debout. De l'autre extrémité du terrain, le prince aérien s'avança à sa rencontre.
« Sir Duncan !» s'exclama-t-il d'une voix enjouée. « Il semblerait que vous n'ayez que cinq champions. »«
Six !» dit Dunk.
« Sir Lionel est en train d'adouber Raymond Fosse-aux-Voix. Nous nous battrons à 6-7. » Certains hommes se sont battus sous des augures bien plus défavorables et ont néanmoins remporté la victoire, se rassura-t-il.
Mais Lord Sandrugué secoua la tête. « Ce n'est pas permis, frère. Si vous ne pouvez trouver un autre chevalier pour se joindre à vous, vous serez déclaré coupable des crimes dont vous êtes accusé. »
« Coupable, » pensa Dunk. « Coupable d'avoir cassé une dent. » Et pour cela, je devrais mourir. Mais sire, accordez-moi un moment, je vous prie.
Vous l'avez.
Dunk poussa un tonnerre le long de la tribune, remplie de chevaliers.
Mais sire,
clama-t-il haut et fort,
l'un d'entre vous se souvient-il de Sir Arlan de l'Arbre-Sous? J'étais son écuyer. Nous avons servi nombre d'entre vous, mangé à vos tables, dormi dans vos châteaux.
Il aperçut Manfred Dondarrion assis tout en haut des gradins.
« Sir Arlan a été blessé au service de votre père. »
Le chevalier dit quelque chose à la dame assise à ses côtés, sans prêter la moindre attention à Dunk, qui ne put que continuer à avancer.
« Lord Lannister, Sir Arlan vous a désarçonné une fois, au cours d'un tournoi. »
Le lion gris examina ses mains gantées, refusant de lever les yeux vers lui.
« C'était un homme bon, et il m'a enseigné l'art d'être chevalier. Pas seulement à manier l'épée et la lance, mais aussi à préserver l'honneur. Un chevalier doit défendre l'innocent, disait-il, et je n'ai jamais rien fait d'autre. Il me manque encore un chevalier pour combattre à mes côtés, un seul, c'est tout. Lord Caron ? Lord Swan ?
Lord Swan rit doucement quand Caron lui murmura quelque chose. Dunk s'immobilisa devant Sir Otto de Bracken, baissant la voix.
« Sir Otto, tout le monde sait que vous êtes un grand champion. joignez-vous à nous, je vous en supplie. Au nom des anciens et des nouveaux dieux, ma cause est juste.
« C'est possible !»
dit la brute de Bracken, qui eut au moins la grâce de lui répondre.
« Mais c'est votre cause, pas la mienne. Je ne vous connais pas, mon garçon. »
Ravagé, Dunk fit faire volte-face à Tonnerre, qu'il lança au galop devant ses hommes au visage pâle et froid. Le désespoir le fit hurler.
« N'y a-t-il donc aucun vrai chevalier parmi vous ?»
Seul le silence lui répondit. Derrière lui, le prince Aérion éclata de rire.
« Nul ne se moque impunément du dragon »
tonna-t-il. Puis une voix s'éleva. « Je me joindrai à Sir Duncan. » Un étalon noir émergea de la brume sur la rivière, un chevalier noir sur son dos. Dunk vit le dragon sur le bouclier, les mailles rouges de la crête surmontant le casque avec ses trois gueules rugissantes.
« Le petit prince ? Les dieux soient loués, est-ce vraiment lui ?»
Lord Sandreguet commit la même erreur.
« Prince Valar ?
Non !» Le chevalier noir souleva la visière de son home. « Je ne pensais pas entrer en lice à Sandreguet, messire. Aussi n'ai-je pas apporté mon armure. Mon fils a eu la bonté de me prêter la sienne. » Le prince Baelor souriait presque tristement. La confusion s'empara des accusateurs. Le prince Maïkar s'avança au galop.
« Frère, aurais-tu perdu la raison? Cet homme a attaqué mon fils !»
Il désignait Dunk d'un doigt couvert de fer. « Cet homme a protégé le faible comme tout vrai chevalier doit le faire, » répliqua Baelor. « Laissant les dieux décider s'il a eu raison ou non. » Il tira sur les rênes et lança au trot l'énorme destrier noir de Valar vers le pré des accusés. Dunk amena Tonnerre à ses côtés et ses compagnons se rassemblèrent autour de lui. Robin Riesling et Sir Lionel, les Humphrey, tous de vrais preux, des hommes bons et braves. Mais serait-il assez fort?
« Où est Raymond ?» demanda Dunk.
« Sir Raymond, si vous le voulez bien !» répondit l'intéressé.
Il apparut, un sourire sévère éclairant son visage sous son casque à plumes.
« Mille pardons, sœur, je devais effectuer un léger changement à mon blason, afin qu'on ne me confonde pas avec mon méprisable cousin. »
Il leur montra son bouclier. Le champ doré restait le même, ainsi que la pomme des Fossauvois, mais celle-ci était verte et non rouge.
« Je crains de ne pas être encore très mûr, mais mieux vaut être vert que bouffé par les vers, n'est-ce pas ?»
Sir Lionel éclata de rire, et Dunk sourit malgré lui. Même le prince Baelor parut approuver. Le septon de Lord Sandreguet s'était avancé au-devant de la tribune d'honneur pour appeler la foule à briller.
« Écoutez-moi tous, » dit calmement Baelor. « Les accusateurs seront armés de lourdes lances de guerre pour la première charge. Des lances de frêne. » De 8 pieds de long, renforcés pour ne pas se briser et munis de pointes assez aiguisées pour s'enfoncer dans une armure, propulsés par le poids et la vitesse d'un cheval de guerre.
« Nous prendrons les mêmes !» déclara Humphrey des Essaims.
Derrière lui, le septon appelait les 7 à daigner baisser les yeux du ciel pour juger de cette dispute et accorder la victoire au parti dont la cause était juste.
« Non, » répliqua Baelor, « au contraire, nous choisirons des lances de tournoi. »«
Les lances de tournoi sont faites pour se rompre, » objecta Raymond,
« mais elles font aussi 12 pieds de long. Si nos pointes touchent leur cible, les leurs ne pourront nous atteindre. Viser le casque ou la poitrine, au cours d'un tournoi, il est de bon ton de briser sa lance contre le bouclier de son adversaire. Mais ici... « Cela peut signifier la mort. Si nous parvenons à les désarçonner tout en restant en selle, nous aurons l'avantage. »
Il se tourna vers Dunk. « Si Sir Duncan est tué,
Il sera admis que les dieux l'ont jugé coupable et le combat sera terminé. Si ces deux accusateurs sont tués, ou bien s'ils retirent leurs accusations, il en sera de même. Autrement, il faudra attendre que les sept chevaliers d'un côté ou de l'autre soient morts, ou capitulent, pour que le jugement soit estimé rendu.
Le prince d'Aéron ne se battra pas, dit Dunk.
Pas bien, en tout cas, ricana Sir Lionel. D'un autre côté, nous aurons contre nous trois épées blanches.
Baylor prit cela avec calme. Mon frère s'est trompé quand il a exigé que la garde royale combatte pour son fils. Leur serment leur interdit de blesser un prince du sang. Et je suis un prince du sang. Il leur adressa un petit sourire. Tenez les autres à l'écart de moi assez longtemps pour que je m'occupe des trois chevaliers blancs.
Mon prince, est-ce chevaleresque ?
Demanda Lord Lionel Baratheon, tandis que le septon achevait ses invocations.
Les dieux vous répondront, dit Baylor.